France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Certains l'aiment tôt, certains l'aiment alto. On n'est pas toujours inspiré le matin, mais surtout en tout cas quand c'est l'alto d'Antoine Tamestide qui interprète les derniers chefs-d'œuvre de Brahms, les deux sonates de l'opus 120, mais aussi les deux chants opus 91 avec le baryton Mathias Goerneux et toujours au piano le fidèle partenaire Cédric Thiberguin. C'est un disque magnifique qui vient de paraître chez Harmonia Mundi, un choix de France Musique. Et Antoine Tamestide est dans ce studio. Bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Baptiste.
On n'est pas tous les matins très inspiré, je disais, mais vous l'aimez, le réveil tôt, vous écoutez la musique, vous jouez le matin tôt?
Alors, ça m'arrive, mais j'ai des enfants, donc en temps normal d'école, je me lève assez tôt, et donc ça m'arrive d'être de retour à la maison, prêt à travailler à 9h. Mais bon, je crois que c'est quand même le plus tôt hein, pour moi, 9h, de commencer à faire des gammes.
L'heure des gammes, l'heure des exercices, voilà. L'heure de Bach.
Oui, ça peut être. J'aime beaucoup me réveiller avec du Bach. J'aime beaucoup aussi me réveiller avec des étirements. Et j'ai l'impression que Bach, c'est des étirements de l'oreille, du cerveau, de la justesse.
Brahms, sa mélancolie, sa tendresse, est-elle propice au matin? Elle va l'être là jusqu'à 9h.
Là, elle va l'être. On va être bien obligé. Et puis, si on est obligé, on le fait. Mais c'est vrai que non. Et moi, j'ai envie de vous parler du fait que j'ai hésité à enregistrer ces sonates. J'ai même hésité à les jouer pendant de longues années. Enfin, j'étais bien obligé. Elles étaient au programme. De toute façon, on me les demandait. Je les ai travaillées avec mes professeurs. Mais j'avais toujours l'impression qu'il fallait un petit peu plus du soir, d'une couleur automnale et plus de maturité. Je me sentais pas encore. Et puis finalement, il a fallu le soutien poétique, raffiné de Cédric Thiberguin et puis d'instruments qui se prêtent à ça pour trouver un petit peu la bonne couleur chez Brahms. Mais j'étais pas prêt. En tout cas, j'étais pas prêt à le faire dès le matin. Voilà.
Ben on va en parler, on va l'écouter. D'abord, un premier extrait de la sonate opus 120, numéro 2, Brahms. Antoine Tamestide est à l'alto, Cédric Thiberguin au piano. Thank you. Allegro appassionato, le deuxième mouvement de cette sonate opus 120 numéro 2, l'une des deux sonates pour alto et piano, ou pour clarinette ou piano, ou autre instrument, pourquoi pas. Brahms, Antoine Tamestit à l'alto, Cédric Tiberghien au piano, un disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Peut-être d'abord, Antoine, un mot de ce qu'on entend là, de ce piano qui, si je ne m'abuse, n'est pas un Steinway qui peut sortir d'usine aujourd'hui.
Non, au contraire, c'est un Bechstein de 1899 qui était un des premiers pianos du Wigmore Hall, qui nous a d'ailleurs été prêté par Peter Salisbury, à qui il appartient toujours. Il l'a amené de Londres à Berlin pour l'enregistrement. C'est un piano que Cédric a découvert, fantastique, et quand il me l'a fait découvrir, et moi en même temps, j'étais allé voir une collection de pianos à Vienne qui m'avait fait découvrir ce style-là de piano, il y a eu une sorte de révélation sur le fait que, bien sûr, un Steinway moderne, c'est super, mais on cherche aujourd'hui de plus en plus l'égalisation des registres, et on a tout qui sonne bien, mais de la même façon, presque de la même couleur. Alors que là, chaque registre a une couleur différente, très intéressante. C'est très racé, ces pianos-là. Et quand on a essayé deux notes hein, de cette sonate de Brahms, avec bien sûr le Stradivarius que je joue et ce Bechstein, il y a eu une sorte de déclic par rapport à la musique même de Brahms, de se dire « Ah, mais c'est pour ça qu'il écrit autant de notes dans les graves, des trucs qui ont l'air un peu coincés, quelque chose de fluet dans l'aigu. » Mais en fait, il cherche ces couleurs-là et il les a sur un piano parce que chaque piano de l'époque va avoir une particularité dans un certain registre. C'est ça qui est fascinant, hein. Ça fait travailler l'imagination des couleurs. En fait, sur chaque phrase.
Vous disiez tout à l'heure, Antoine Tamestit, que vous avez hésité d'abord, avant de les jouer, et ensuite de les enregistrer. Qu'est-ce qui vous bloquait? Qu'est-ce qui vous mettait dans une gêne par rapport à ces dernières pages de musique de Johannes Brahms?
Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est une question de maturité, mais je restais un tout petit peu froid ou bloqué quand je les jouais. Pas quand je les écoutais, parce que j'ai toujours aimé vraiment les écouter. J'ai eu beaucoup d'enregistrements, d'ailleurs, qui m'ont inspiré à faire de la musique, à être altiste, comme celui de Pinchas Zukerman et Daniel Barenboim, très bel enregistrement à l'alto. Mais je sais pas, quand je les jouais, je me sentais pas à l'aise sur le registre. Alors j'ai passé, par exemple, 2 ans à jouer la version de clarinette, c'est-à-dire à octavier, à jouer plus aigu, pour voir peut-être que l'original m'inspirerait. Et puis après, un jour, d'ailleurs du jour au lendemain, entre 2 concerts, j'ai rechangé de la partie de clarinette, de cette version clarinette à la version alto. Et là, j'ai joui du fait qu'on passait dans le grave et qu'on avait cette chaleur. Et j'ai compris d'où la chaleur de ces notes devait venir. Et puis après, j'ai eu l'impression que Cédric avait une approche tellement plus poétique, plus subtile de chaque accompagnement, et qu'il me montrait combien chaque accompagnement est beau. Et en fait, finalement, chaque accompagnement est construit de ce qui se passe dans la mélodie. Il reprend des éléments, des notes de la mélodie. Il est génial, Brahms, là-dedans. Quelqu'un comme Cédric Tiberghien m'a fait encore plus découvrir ça, cette proximité en fait de chambriste, ce mix entre deux voix qui se confondent complètement. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qui doit guider l'autre. Ça va de... Et puis aussi cette approche plus hongroise. Et ça, je pense que j'ai mis du temps à la connaître et à l'apprendre. Et il m'a fallu des grands artistes comme Leonidas Kavakos ou de jouer même avec des musiciens de musique populaire hongroise magnifiques pour vraiment sentir l'agogique, le rubato brahmsien. Et puis après, voilà, avec ces instruments, avec Cédric, il y a eu une sorte de déclic qui fait que maintenant je suis à l'aise et j'adore les jouer.
Est-ce que leur simplicité apparente peut faire peur. C'est dans le livret du disque, c'est Brahms qui écrit le 14 octobre 1894 à Joachim, violoniste et altiste. Il dit ces pièces peu exigeantes ne dérangeraient pas trop notre confort et ce serait beau. Avec cette belle perspective, je t'envoie mes chaleureuses salutations, ton Johannes. La simplicité peut faire peur, la simplicité en tout cas technique.
Vous avez raison de citer ça, c'est moi qui ai voulu l'inclure au livret, cette phrase que je l'ai lue dans les correspondances de Brahms, et elle m'a fait plaisir parce qu'elle a aussi donné de la légitimité à cette version alto, et puis qu'ils disent c'est peu exigeant, je me suis dit mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi je me suis tellement compliqué? En fait c'est de la musique, même si elle est géniale, elle est complexe, elle est instinctive, elle sort du cœur. Il veut la jouer avec, dans cette lettre il dit qu'il veut la jouer avec Joachim, mais pour Clara Schumann, et que ce sera beau, et que voilà, ça leur fera plaisir, et ça va pas les déranger, parce que ça sera pas quelque chose qui va leur triturer l'esprit. C'est une musique qui sort du cœur, qui sort de la respiration, et ça, il fallait peut-être le comprendre.
Simplicité apparente également sur ce disque, avec une berceuse, la plus célèbre de toutes les berceuses. Gunlead, la berceuse de Brahms avec Antoine Tamestit sur son Stradivarius, Cédric Thiberguin sur son Bechstein de 1890 et sur ce disque également Harmonia Mundi. Antoine Tamestit, c'est une musique que vous jouez à vos enfants ?
Oui, j'ai essayé désespérément de la chanter à mes enfants. Je me souviens d'un moment d'ailleurs avec mon fils Nino qui a maintenant 8 ans et demi où il était vraiment tout petit, à peine quelques semaines, et je lui ai joué la berceuse. Je voulais pas le déranger, je lui ai joué en PIDS. Et puis finalement, cette berceuse, elle est restée. Je lui ai murmuré le soir pour l'endormir. Il me la demande encore, d'ailleurs. Et je préfère la jouer, hein, je vous avoue. Je suis pas très bon chanteur. Mais voilà, c'était un peu une évidence de la mettre sur ce disque, de parler de la proximité avec les enfants. C'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec Cédric aussi, la paternité et l'amour de nos enfants.
Le chant de l'alto, vous avez fait un disque qui s'appelait Bel Canto, qui reprenait des airs d'opéra. Ici aussi, c'est le chant qui s'impose, le chant dans ses sonates, le chant qu'on va entendre aussi avec l'un des plus grands barytons. C'est d'abord faire chanter Brahms le fil de ce disque ?
Oui, je pense que clairement vous pointez qu'il y a une obsession, en tout cas chez moi, et que qui fait que je relis toujours l'alto à la voix d'alto, l'alto instrumental au chant, l'idéal du chant qui est une sorte de son infini qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de coup d'archet, qui n'a pas de doigté. Et pour moi, ça reste un idéal. Je me suis marié avec une chanteuse, j'ai fait des albums qui ont à voir avec le chant. J'essaye de chanter. Mon instrument, l'alto de Stradivarius, ça fait 13 ans maintenant que je le joue, m'a poussé vraiment dans cette direction, parce que même dans les passages les plus virtuoses, c'est un instrument, on sent qu'il cherche à vibrer, à onduler, à chanter. Il est jamais trop rapide et trop sec. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment inspirant pour moi. Et je suis devenu complètement fanatique de ça et de gens comme Matthias Goerne, dont j'avais envie de m'entourer, dont j'avais envie d'être inspiré par cette respiration, ce sens de la musique qui vient du corps. Et c'est vrai que de travailler des leaders de Brahms a fait qu'après, on a vu les choses complètement différemment avec Cédric dans les sonates, et même les mouvements rapides devenaient très très chantés, très dans l'expression, dans une sorte de parole. Il fallait trouver des phrases, fallait trouver une histoire, et ça nous a vraiment guidés dans notre interprétation, à mon avis.
Qu'est-ce qui se produit, Antoine Tamestit, quand physiquement vous jouez et qu'un chanteur est à vos côtés et chante?
Alors là, pour le coup, je vais vous parler de l'expérience avec Matthias Goerne, parce qu'on a eu l'impression avec Cédric d'un vrai tsunami, j'ai envie de dire, parce que dès les premières notes de répétition, on avait les poils qui se dressaient, puis on était emportés dans ce son, et comme si on n'avait plus de surmoi pour décider comment on allait jouer. On était emporté par ce son, tout devenait instinctif, on se mélangeait à ce son. Matthias Goerne, en plus, a une manière de chanter très très physique, très corporelle. Ça sort des tripes, c'est quelque chose qui part des pieds comme ça et qui vient sortir. Et donc, je sais pas, on s'est mis à penser comme ça avec Cédric, moi avec mon alto en allant comme ça vers le haut et vers l'extérieur, Cédric en venant au-dessus du piano. C'était extrêmement inspirant, et j'avoue que moi, à chaque fois que je joue avec des chanteurs, ça me fait du bien, ça me fait oublier aussi mon instrument, et je vois toujours ça comme un idéal. Même en plus elle est là tous les jours avec moi, même quand ma femme chante, juste après, si je travaille, j'ai envie de jouer différemment.
8h47, France Musique, les poils se dressent. Wann ruhst du? voix de Mathias Görneux, la voix d'Antoine Tamestit avec son alto et Cédric Tiberghien au piano sur ce disque qui vient de paraître chez Aronia Mundi, Gestilt Sehnsucht, extrait de ses deux chants, opus 91 de Brahms. Là encore, les poils se dressent quand on écoute, cette musique, également de la fin de la vie de Brahms.
Et j'ai envie de vous dire, c'est presque une de mes œuvres, particulièrement celui-là, une de mes œuvres préférées de Brahms, tellement bien écrite. Je l'ai jouée très très tôt, j'avais à peine 20 ans. On joue ça beaucoup dans des festivals, puis en musique de chambre, tout ça, et ça fait enfin ce contact entre chanteur et instrumentiste. Et c'est vraiment une pièce que j'adore. Et alors là, c'était, comme dirait l'autre, la cerise sur le pompon de jouer ça avec Mathias Görneux.
Et l'immense tendresse de cette musique qui fait du bien aussi le matin, qui passe très bien le matin, on en parlait tout à l'heure avant 8h30. Vous étiez avec nous en décembre, on était en ligne, c'était avant la création française de ce concerto Thierry Sketch, qu'on peut toujours écouter sur francemusique.fr. Vous nous aviez fait part de votre manque énorme du public, votre impatience et même votre frustration honnête face à ces captations sans public. Aujourd'hui, Antoine Tamestit, dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment vous vivez ce moment-là, en cette fin février?
Pas bien meilleur, parce que comme vous le dites, on est fin février et j'ai l'impression qu'on va fêter un anniversaire tellement triste là. Et que... Alors il y a une sorte de soulèvement, je vois parmi mes collègues, tout artiste confondu, tout art confondu, de nos cultures, nos futurs, et c'est ce que je pense. Je comprends pas pourquoi on trouve pas de solution pour réintégrer le public, même de manière partielle, dans les musées, dans les théâtres, dans les concerts. J'ai un manque, comme je vous le disais, énorme, et il est encore plus là. En fait, il grandit de plus en plus. Après, j'essaye toujours de trouver quelque chose de positif, et je me suis dit que ça nous faisait comprendre cette communication avec le public, le fait que le public fait partie, en fait, de notre création artistique. Et j'ai envie de dire 50-50, c'est-à-dire qu'en fait on n'est rien sans cette oreille, mais sans cette oreille vivante, cette présence, cette respiration du public, la réaction du public, les compositions sont faites pour ça, et moi je passe ma vie à vouloir défendre des compositions, des œuvres. C'est pour ça que je suis artiste-interprète, mais j'ai besoin de cette écoute, j'ai besoin de ce retour, et j'ai l'impression que j'ai peur qu'on se brise, en fait, petit à petit, les artistes, qu'on perde notre entité, notre force à ne pas faire de concert avec public.
Vous en connaissez aujourd'hui des artistes qui sont brisés déjà?
Oui. Et j'essaye, en fait, on se soutient les uns les autres pour pas se briser complètement, mais j'en connais et ça me fend le cœur. Et moi, j'ai du mal à tenir, même si je vois bien, j'ai eu de la chance, j'ai eu des concerts, j'ai joué, justement, comme vous dites, avec des orchestres de radio. C'est ce qui m'a sauvé, de faire des concerts captés, soit au micro, soit avec les caméras. Ça m'a tenu un petit peu, ça me tient encore de faire des disques. Par exemple, la semaine prochaine, je vais faire un autre disque. Mais vraiment, on est au bord de cette cassure, à mon avis.
Rendez-vous, on l'espère, le 20 mars en Allemagne, à Heidelberg avec Cédric Tiberghien, et puis les 8 et 9 mars à Clermont-Ferrand avec l'Orchestre National d'Auvergne, d'ailleurs que vous dirigerez aussi de l'alto, et les 14 et 15 avril à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris, Gabor Kali, et on l'espère, du public. Merci beaucoup Antoine Tamestit.
Merci à vous.
On se quitte avec Brahms, ce disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Thank you. Brahms, la fin de la première sonate de l'opus 120, opus 120 numéro 1, Antoine Tamestit, à l'alto, Cédric Tiberghien, au piano. Demain, notre invité sera un chef et violoniste, Nikolai Schepp-Snyder, le nouveau chef de l'Orchestre National de Lyon. Antoine Tamestit fait le pouce et il sera demain soir sur la scène de l'Auditorium de Lyon pour les Victoires de la Musique Classique.
À réécouter sur francemusique.fr.